Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse et un peu émue en fait de faire cette conférence avec vous. Je l'ai préparée d'ailleurs en partie sur le fondement d'une discussion avec France Le Turc et Nicolas Vignier, avec beaucoup d'éléments bibliographiques qu'ils m'ont aimablement communiqués et puis d'autres éléments que je suis allée chercher de mon côté. Et je vais vous proposer aujourd'hui, alors c'est vraiment un travail en cours hein, d'élaboration, donc j'espère recevoir beaucoup de critiques et d'objections. Donc un travail que j'ai voulu intituler Partager l'incertitude et après, donc enjeu éthique du dépistage précoce de maladies génétiques en phase asymptomatique. Alors je vais présenter les choses de la manière suivante. Après une courte introduction, en fait, je vais développer un propos en quatre temps. Enfin, donc avec un premier temps consacré à l'argumentation autour de l'extension, une argumentation favorable à l'extension, un deuxième et un troisième temps qui sont consacrés à des questionnements qui iraient plutôt dans le sens d'un renoncement à l'extension, avec un premier pôle de questionnement autour de la décision à la place d'eux et pour l'enfant. Et un troisième temps de réflexion bon, que j'ai intitulé un peu pompeusement, mais bon, néanmoins je le fais quand même, la responsabilité épistémique à l'épreuve et qui portera sur les questionnements, les doutes émis par les chercheurs et les cliniciens à l'égard de l'extension quant à la nature du savoir qu'ils sont susceptibles de diffuser et de divulguer aux parents d'enfants. Et puis je terminerai sur ce qui me semble être, bon, peut-être pas nécessairement le problème majeur, mais en tout cas vraiment un point de difficulté autour de cette notion d'incertitude, avec la question suivante, un problème pour les médecins, mais il aurait fallu même que je mette les médecins et les chercheurs, ou un enjeu pour tous au sens du collectif et de la société que nous formons. Alors vous verrez que je me centrerai surtout donc sur l'exemple de la myopathie de Duchenne au fil de mon développement, même si de temps en temps je quitterai cet exemple. Alors pourquoi je vous propose cette présentation? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord parce que en tant que philosophe, j'essaye d'adopter une position non pas surplombante pour qui viendrait à la lumière des concepts philosophiques ou des normes qui sont travaillées en philosophie. Dire ce que je pense devoir être. J'ai vraiment une position autre qui consiste plutôt à essayer d'éclairer les arguments, déjà de cartographier tout simplement les arguments qui circulent dans la société, dans la littérature philosophique, dans la littérature bioéthique, de façon à ce que chacun se fasse son idée. Et donc, je pars de la discussion publique, sur les enjeux éthiques tels qu'ils sont disponibles dans notre société française. Je ne partirai pas d'arguments a priori, de concepts, etc. Je vais partir des arguments qui circulent. Et aussi parce que j'ai voilà, grandi avec des philosophes et des sociologues pour lesquels, sur ces questions, on va dire, de prise en charge médicale et de bioéthique, il n'y avait pas nécessairement un positionnement moral a priori, valide en tout temps, en tout lieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des valeurs qu'on a envie de défendre, mais qu'il fallait aussi être attentif à une morale collective qui se crée, qui se travaille, parfois très douloureusement, qui se construit, et avec une vision donc, de la démocratie comme un état politique où on affronte des problèmes collectifs ensemble, de façon plus ou moins pacifiée, mais avec du tâtonnement, de l'investigation et des enquêtes à mener. Voilà, alors donc vous l'aurez compris, mon objectif n'est pas nécessairement de prendre parti, même si je me garderai bien de dire que je suis neutre, parce que je pense qu'au fil de quand même du raisonnement, il y a une orientation qui se dessine et elle apparaîtra en particulier dans la quatrième partie. Mais même si cette orientation se dessine, j'essaierai avant tout de comprendre pourquoi il y a débat ou dilemme ou difficulté. Et enfin, ce que je ne fais pas toujours, mais qui me semble être un élément important ici, j'essaierai d'identifier des objets à investiguer. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on ait tous les outils ou toutes les connaissances en main pour bien appréhender au jour d'aujourd'hui les enjeux éthiques autour de l'extension du diagnostic en période néonatale et qu'en tout cas on a besoin encore d'apprendre un certain nombre de choses d'organiser des enquêtes sur un certain nombre d'attentes, de réactions potentielles, avérées, etc. Et j'ai mis ça en rouge parce que quand j'identifierai de mon point de vue de telles enquêtes nécessaires, elles apparaîtront en rouge dans mon développement. Voilà, donc ce que je vais parcourir donc, dans cette série d'arguments, c'est donc voilà, des idées qui sont proposées soit dans la beaucoup ici dans la littérature institutionnelle ou politique ou éthique, et je me suis souvent reposée sur la aussi sur des lectures au-delà du territoire français, même si je me suis surtout concentrée sur ce territoire, pour pouvoir justement faire de la comparaison, voir quels arguments apparaissent en France et pas ailleurs, ou au contraire, est-ce que finalement ce sont des arguments assez partagés, etc. Et est-ce qu'on a des données disponibles sur certains éléments qu'on n'aurait pas encore en France ? Voilà, donc la question dont je partirai, c'est celle de l'extension du dépistage précoce de maladies génétiques en phase asymptomatique, pour ou contre ? Eu égard aux possibilités offertes actuellement par le législateur en France, que j'ai rapidement rappelé ici. Alors, dans la première partie, ce que je voudrais aborder, c'est cette idée que l'extension du dépistage est une évolution nécessaire et justifiée. Et un argument qu'on rencontre extrêmement fréquemment aujourd'hui dans la littérature, c'est l'idée que les technologies de séquençage du génome, notamment, permettraient aujourd'hui, en tout cas, de procéder à un tel dépistage, d'orienter vers un tel diagnostic de façon beaucoup plus efficiente, peu coûteuse pour la communauté, donc efficace et simple. Et c'est un argument qui est répété vraiment dans de nombreux contextes nationaux et sociaux différents. Alors, c'est un argumentaire qu'on retrouve dans la proposition que l'AFM a rédigée pour les états généraux de la bioéthique, donc c'est un texte récent qui est d'actualité, et qui a souligné ce qui a été qualifié de torpeur, donc la critique est forte, et de retard de la France, après une position pionnière qui aurait été celle de la France en 1972, avec le lancement du dépistage de la phénylcétonurie, pardon. Et aujourd'hui, donc, près de 50 ans plus tard, la France serait en retard parce qu'elle ne s'empare pas de tests donc simples, disponibles, peu coûteux, qui permettent donc de dépister en période dite néonatale. Et à l'issue de ce test, ces résultats peuvent permettre aux parents de rentrer dans une démarche diagnostique. Et l'argument qui est développé dans ce texte, qu'on retrouve aussi dans la littérature internationale, il s'appuie sur deux éléments principaux. D'une part, concernant la personne malade, il s'agit d'éviter des pertes de chance. À défaut d'être guéri, on peut dépister des maladies qui peuvent quand même être accompagnées, suivi, etc. Et puis, l'autre pilier de l'argumentation, c'est d'améliorer le suivi des familles. Il s'agit d'éviter l'errance diagnostique. Dans les textes anglais que j'ai lus récemment, ils parlaient d'odyssée pour les parents. Donc, il y a quand même une expression aussi qui dit bien la grande pénibilité pour les parents de cette situation avant le dépistage. Et puis, éviter l'errance diagnostique, offrir un conseil génétique en vue de futurs choix procréatifs. Et aussi, un argument que j'ai trouvé plus rarement, mais que j'ai quand même rencontré, c'est mettre fin à la culpabilité. Au sens où, effectivement, à un moment donné, l'enfant, tout le monde s'aperçoit que l'enfant a un problème, il y a une prise en charge qui est faite, et les parents, effectivement, se sentent coupables parce qu'ils se disent si on avait pu le faire avant, on aurait pu mieux faire à ce sujet. Ce sont des arguments qu'on retrouve au niveau de la littérature politique aussi. Plan national maladie rare 2018-2022, on retrouve l'argument sur la torpeur et le retard de la France, avec une variante qui tient, je pense, à la nature du texte, qui défend aussi le positionnement international de la France dans la recherche. Et dans ce plan national maladie rare, on retrouve pour éviter les pertes de chance pour la personne malade, et l'argument améliorer le suivi des familles. Et dans ce plan national maladie rare, il y a aussi une forte articulation de cette argumentation à la recherche, donc un enjeu qui est propre quand même à la recherche et pas seulement à la prise en charge, et au plan France Médecine Génomique 2025. En tout cas, si on suit cette argumentation, On aboutit assez rapidement à l'idée qu'on ne pourrait plus en rester aux critères qui ont été énoncés en 1968 par Wilson et Jungner, donc aux États-Unis, mais quand même repris en grande partie, et qui associaient la légitimité de pratiquer un dépistage à la possibilité d'une véritable prise en charge médicale, traitement suite au dépistage. Donc, screening would have the potential to reduce morbidity or mortality. Il y avait d'autres éléments, mais celui-ci était tout à fait important. Outre, évidemment, l'efficacité du dépistage en tant que tel. Hein, effective treatment, c'est effectivement l'idée de traitement efficace. Alors, tout ça fait qu'aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière, et j'y reviendrai aussi en conclusion, l'extension du dépistage précoce de maladies génétiques en phase asymptomatique apparaît un peu comme inévitable et justifiée. Et finalement, les problèmes qu'on aurait, ce sont avant tout des problèmes d'ordre pratique, alors qui ne sont pas du tout mineurs, mais qui seraient quand même solubles à moyen terme, et qui sont déjà abordés. Hein, la mise en place de centres de stockage de données, pour conserver toutes les données liées au séquençage du génome, l'élaboration d'un consentement à la démarche, alors là j'ai mis diagnostic, mais il aurait fallu que je mette dépistage et diagnostic génétique, ce qui n'est pas du tout une mince affaire, ce qui pose énormément de problèmes au regard de la loi actuelle française, et donc corrélativement l'adaptation du cadre législatif. Mais l'un dans l'autre, j'aime beaucoup la formule de ses collègues anglais, hein, on aurait quand même, on s'acheminerait vers, on aurait qu'à régler des problèmes de cet ordre juridique, stockage, etc. Mais donc l'un dans l'autre, on devrait s'ouvrir à cette perspective. We can't shut the door now. On ne peut plus fermer la porte. The genies are out. We need to refine it. On doit juste raffiner le cadre, rendre les choses possibles. Voilà. Alors, si on suit cette perspective, néanmoins, à mon sens, on se heurte à deux espaces de questionnement assez rapidement qui ne contredisent pas nécessairement l'extension, mais qui la rendent problématique. Et pour moi, le premier espace de questionnement est celui-ci, donc décider à la place de et pour l'enfant. Alors, je voudrais m'y arrêter un instant. Tout d'abord, pour souligner que, à mon sens, en tout cas, on a ici une difficulté fondamentale qui n'a pas vraiment de solution. Enfin, de fait, si on étend le dépistage, on décidera à la place et pour l'enfant. Et voilà, il faut l'accepter et on ne peut pas avoir que des, entre guillemets, que des bénéfices moraux. C'est une difficulté fondamentale, a fortiori dans le contexte contemporain qui est le nôtre, où tant sur le plan moral que juridique, en France, on a vraiment valorisé l'idée de l'autonomie. Vous connaissez sans doute donc l'article de la loi de 2002 qui accorde à la personne, dûment informée par les médecins, un rôle dans la décision qui la concerne, un rôle tout à fait central. Bon, à minima, aujourd'hui, on est dans la décision partagée. Donc, quand on est dans des situations médicales où on décide à la place d'eux et pour l'enfant, même si c'est aménagé du point de vue juridique, ça suscite toujours des questionnements moraux. Je pense qu'effectivement, donc, comme je vous le disais, ce n'est pas une difficulté qui trouvera une solution en contexte néonatal. On la connaît ailleurs et elle est très vive à chaque fois en réanimation néonatale. Elle l'est aussi très fortement, et en contexte prénatal, non pas pour l'enfant né, mais pour le fœtus et la grossesse poursuivie jusqu'à son terme, on se pose aussi la question, en fait, de savoir si, pour un diagnostic prénatal, on a le droit d'engager une démarche dans la mesure où elle pourrait aboutir à une interruption de grossesse pour motif thérapeutique. Voilà. Alors, pourquoi ici elle a sa place ? Eh bien, parce qu'il y a tout un questionnement qui est associé à l'effet du dépistage, pouvant mener éventuellement un diagnostic pour l'enfant et qui concerne le développement de sa personnalité, sa place dans la famille, l'éducation qu'il va recevoir et sa vie au quotidien. Et donc, pour le résumé d'une question, est-ce que, à travers ce dépistage et le diagnostic, on ne va pas créer des sujets qui sont avant tout déterminés par leur maladie avant même que celle-ci ne s'exprime. Bon, et c'est une question qui a l'air, on peut la balayer d'un revers de main, mais Aujourd'hui, il y a toute une littérature qui n'est plus du tout science-fictionnelle, en fait, qui se développe en marge de la médecine génomique et effectivement qui imagine comme ça des vies qui sont un peu prédéterminées par un diagnostic ou un dépistage et qui font qu'on a voilà, des trajectoires de vie. Alors, non seulement effectivement déterminée par la maladie, mais avant même que celle-ci ne s'exprime, par l'anticipation de celle-ci et avec des effets donc sur cette vie au quotidien et la place de l'enfant dans la famille, dans la fratrie. D'autres enjeux s'ajoutent aussi, qui sont peut-être pas si souvent identifiés que ça. D'une part, parce qu'ils sont, en particulier le premier, relativement nouveau. C'est l'enjeu de la protection de la vie privée et des données stockées, parce que si on procède à un séquençage du génome, effectivement, la question va se poser. Des données stockées tout au long de la vie, est-ce qu'elles seront réutilisables par la recherche? L'enfant, a fortiori, effectivement, ne dit rien au moment où le dépistage est pratiqué. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel doivent plancher les juristes et ceux qui travaillent au formulaire de consentement, dans l'hypothèse où effectivement il y aurait une extension du dépistage. Ce n'est pas si simple en fait de résoudre ces questions. Et puis, il y a aussi tout un questionnement qu'on peut essayer d'instruire, même si c'est compliqué, en partie par analogie avec la littérature qui existe déjà, de sociologie, de psychologie notamment, sur les effets chez les adultes, du dépistage de la maladie de Huntington ou du risque du cancer du sein. Et vous avez une éminente spécialiste de la question dans la salle, donc je ne vais pas trop développer ce point, mais on sait qu'un certain nombre d'adultes qui s'engagent dans des démarches de dépistage ne vont pas au bout de la démarche ou que certains adultes préfèrent ne pas savoir. Donc c'est vrai que c'est le savoir qu'on a du renoncement, en fait, hein, à un savoir ou de l'abandon en cours de route d'une démarche de dépistage ou de diagnostic, tire un peu une sonnette d'alarme sur les inquiétudes que peuvent générer les résultats. Voilà. Alors, on ne peut pas transposer, évidemment, de façon immédiate au nouveau-né, hein, ça n'aurait pas de sens. Mais néanmoins, voilà, on voit bien que ce n'est pas évident chez les adultes, donc on peut légitimement se poser la question de cet effet des tests en phase présymptomatique. Et puis, un dernier effet qui est questionné, en tout cas par la littérature, c'est, au-delà de l'enfant lui-même, l'angoisse parentale et familiale qui peut résulter de l'identification en phase présymptomatique de nouveau-nés malades. Alors, une question qui a été posée, puisque voilà, j'ai passé en revue toute une série de problèmes potentiels, ou en tout cas d'effets potentiellement négatifs, qui sont repérés déjà, plus ou moins approfondis, mais en tout cas repérés. Une question qui a été posée dans un certain nombre de textes, c'est est-ce que ces effets potentiellement négatifs sont compensés par un gain en qualité de vie pour les nouveau-nés testés? C'est-à-dire, oui, on n'a pas de solution satisfaisante du point de vue éthique, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui l'emporte d'un côté ou de l'autre? Alors, ce que je trouve intéressant, et je pense que, voilà, j'ai mis un premier petit élément en rouge, je pense que c'est une question qui demeure largement à documenter. Là encore, en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse, en fait, dans un article qui revient sur un programme en fait, qui a été mené au Pays de Galles entre 1990 et 2011, où 34 000 garçons ont été testés avec 9 cas identifiés en fait, pour la pathologie de Duchenne. Ce qui est souligné dans l'analyse de ce programme, c'est qu'il n'y a pas eu nécessairement de bénéfice pour ces nouveau-nés garçons en termes de prise en charge, d'accompagnement, de suivi. Donc ça pose la question de ce qu'on fait à côté du test, ça c'est certain. Par analogie aussi, et sans plaquer, hein, mais par analogie aussi, le rapport de la Haute Autorité de Santé de 2009 soulignait la même chose à propos de l'extension du dépistage néonatal de la mucoviscidose. Donc, là aussi, questionnement, cette compensation par un gain en qualité de vie pour le nouveau-né testé n'est pas si évidente que ça. Et donc, moi, à titre personnel, je pense que c'est une question qui demeure vraiment à documenter en engageant des enquêtes à large échelle, à la fois donc à large échelle, quantitative, des cohortes, hein, mais aussi qualitative sur le long cours. Et on sait que ça coûte de l'argent, mais ça serait bien de les faire. Alors, une réponse qui a été proposée en fait à ce pardon, à cette question, c'est-à-dire effectivement, bon, c'est pas si sûr que ça qu'on ait un vrai gain. Une réponse qui a été proposée aux États-Unis est celle d'un dépistage conçu de façon modulable. Alors, les États-Unis, pour nous, c'est un cas intéressant en fait de comparaison parce que depuis 2006, en fait, ils ont beaucoup étendu le scope de des maladies testées. Je crois qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on en a une cinquantaine. Mais ils ont beaucoup réfléchi à la manière d'y procéder. Et en fait, ils ont un système un peu à double entrée. Ils ont un dépistage qui est obligatoire avec option de sortie. C'est-à-dire que le dépistage est obligatoire, mais si moi, en tant que parent, je ne veux pas y procéder, je dois dire que je ne veux pas le faire. Pour les maladies qu'on peut dépister et ensuite traiter. Et pour les maladies qu'on peut dépister, mais sans qu'il y ait pour autant une prise en charge au sens d'un traitement thérapeutique, simplement plutôt quelque chose du suivi ou de l'accompagnement, ce qui est déjà beaucoup, ce n'est pas obligatoire. C'est une démarche volontaire, mais c'est autorisé par la loi, c'est encadré par la loi. Donc, effectivement, ils ont comme un système à double entrée, selon ce qui suit le dépistage. Et puis, alors, c'est inégal selon les États, mais au moment de cette extension, ce sur quoi il a été beaucoup insisté, c'est d'une part la communication, j'y reviendrai, et puis d'autre part, ce qu'ils appellent. Donc je l'ai surligné, Registry Coordinated Infrastructure and Social Support Program. Donc effectivement, tout ce qui vient après le dépistage, hein, qui est en fait quasiment une condition pour que le dépistage soit mis en œuvre de façon satisfaisante et convaincante. Voilà, donc pour une fois, les États-Unis ne sont pas les méchants libéraux et capitalistes, voilà, ils ont des éléments de réflexion qui sont intéressants pour nous. Alors, voilà, avant de passer à mon. Voilà, donc vous voyez que décider à la place d'eux et pour l'enfant, ça nous ouvre quand même tout un espace, effectivement, de réflexion qui est compliqué, pour lequel je pense qu'on n'a pas encore toutes les connaissances et qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main, même si on se dit qu'il y a un suivi et un accompagnement possible en étendant, donc en autorisant l'extension du dépistage. Avant de passer à ma troisième partie, je voulais juste faire une petite diapo sur cet argument. Parce que on pourra en discuter. Moi, je ne suis pas convaincue. J'ai trouvé plusieurs fois l'argument selon lequel il ne faut pas instrumenter. Enfin, le test de dépistage pourrait être instrumentalisé par des parents en vue de futurs choix reproductifs. Donc, il ne faudrait pas l'autoriser. Alors, moi, je trouve que cet argument est un peu spécieux. En tout cas, il ne me convainc pas du tout. Donc, j'en parlerai pas, en fait. Je ne le mettrai pas au pot de l'argumentation. Parce qu'il me semble que quand on a un parcours de vie en tant que parent, dans lequel il y a un enfant déjà né, avec une suspicion de maladie d'origine génétique, et qu'on aurait envie, en fait, de faire le test, même si on a envie, après, de faire d'autres enfants, de toute façon, la suspicion de maladie d'origine génétique, d'une certaine manière, elle piège les parents. Évidemment qu'ils ont envie de savoir. Enfin, donc, je trouve ça un petit peu compliqué de leur reprocher d'instrumentaliser le test en vue de futurs choix reproductifs. Voilà. Donc, je le dis. Après, on peut ne pas être d'accord, mais. Avec moi, mais je le mets de côté, je ne le trouve pas convaincant. Voilà, alors, deuxième élément voilà, qui me semble être ouvrir un espace de questionnement et rendre l'extension du dépistage pas si inévitable et évidente que ça. Donc, c'est ce que j'ai présenté sous le chapeau de la responsabilité épistémique à l'épreuve. Alors, je m'explique de cette formule. La plupart du temps, dans la philosophie morale, vous allez entendre parler de responsabilité morale, de responsabilité politique, il faut prendre ses responsabilités, etc. Et on pense rarement, enfin, quoique ces derniers temps, oui, on commence à en parler, de la responsabilité du savant dans son activité d'élaboration du savoir. Et moi, ce que je trouve très. Alors, on en parle aujourd'hui à cause des fake news, etc., mais là, ce n'est pas le sujet du tout. Mais moi, ce que je trouve très frappant et très enfin, intéressant, questionnant, c'est les scrupules, en fait. Ce sont les scrupules que les chercheurs et les cliniciens énoncent aujourd'hui à l'égard du savoir qu'ils élaborent et qu'ils sont susceptibles de transmettre. Et à mon avis, ce sont des scrupules auxquels il faut prêter vraiment une. Enfin, il faut les prendre au sérieux, il faut y prêter une grande attention. Alors, Je vais essayer de développer ce point. Alors, je me suis un peu promenée sur différents sites français ou britanniques ou américains pour voir comment on présentait la maladie à tout un chacun, le commun des mortels, vous, moi, enfin, pas vous, pardon, mais moi. Voilà. Et alors, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, on trouve voilà, une présentation standard là, que j'ai reprise, hein, donc sur le site Santé Médecine, Journal des Femmes. La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique. C'est la forme la plus répandue de la myopathie de l'enfant-garçon. L'anomalie qui la cause se trouve sur un gène du chromosome X, carence en dystrophine, une protéine essentielle à la pérennité des fibres musculaires, liée à une anomalie du gène DMD, dont la fonction principale est de produire la protéine qui soutient la fibre musculaire. Bon, déjà, ce n'est pas nécessairement très simple de comprendre ça, mais voilà ce qu'on lit dans les sites voilà, de présentation pour tous les citoyens. Alors, ça suscite beaucoup de questions. D'abord, je ne vais pas nécessairement beaucoup m'étendre sur ce point, mais il faut savoir, enfin vous le savez sans doute, qu'il y a quand même un débat important dans la littérature épistémologique du côté philosophique et du côté des sciences du vivant sur ce qu'est une maladie génétique même. Dans la classification la plus fréquemment utilisée, on va distinguer les maladies dites monogénétiques, les maladies liées à des anomalies chromosomiques et les maladies dites multifactorielles. Et spontanément, on va avoir tendance à penser que les maladies monogénétiques, finalement, sont les plus simples, parce que c'est les maladies qui sont reliées à un gène. Donc, c'est pas là que les difficultés se posent. Or, en fait, si, car là, je vous ai donné une citation, mais en fait, il y a d'autres éléments de débat, il n'est pas si évident de savoir. Enfin, on ne sait pas encore exactement comment ça marche, finalement. Hein. Et peut-être, et alors, dans un des textes que j'ai lus, l'auteur disait bah, peut-être que la chose la plus prudente et la moins fausse à dire, c'est que le gène, c'est un difference maker. Mais au-delà de ça, on ne sait pas très bien analyser ce qui fait que quand il y a tel gène, hop, il va y avoir telle maladie. Y compris dans le cas des maladies dites génétiques, maladies monogéniques. Donc, il y a un débat, il est en arrière-plan, et je pense que c'est important d'en tenir compte pour ne pas s'illusionner sur l'apparente simplicité qu'on pourrait associer à l'idée de maladie génétique par différence avec des maladies multifactorielles ou des maladies liées à des anomalies chromosomiques. Ça, c'est un premier point. Ensuite, de manière générale, ce que la aujourd'hui, hein, ce que donne à voir beaucoup d'enquêtes qui sont menées soit dans des laboratoires de recherche, soit dans des cliniques, soit dans des institutions qui rassemblent les deux, comme c'est le cas ici, c'est que donc il y a des difficultés qui sont répertoriées, énoncées, dont on témoigne à propos du dépistage de maladies génétiques. Alors, de façon très générale, j'ai distingué deux grands voilà, paquets, hein, au laboratoire et pour le clinicien. Au laboratoire, ce qu'on dit aujourd'hui à propos du dépistage d'une maladie génétique, suscitant donc la question de est-ce qu'on est bien légitime à divulguer ce qu'on élabore comme connaissance, c'est la difficulté à distinguer des variants pathogènes ou bénins, à classer certains variants dans l'une de ces deux catégories. On craint les faux positifs. On se demande ce qu'on va faire avec les découvertes incidentes. Et puis, parfois, on peut dépister non pas la maladie qu'on recherche, mais des formes frontières. Et ça peut avoir une incidence, évidemment, sur la prise en charge. C'est donc très compliqué pour quelqu'un qui fait une analyse de se dire, ben voilà, je vais remettre ce savoir au clinicien et le clinicien va en discuter avec le patient et il va lui dire, voilà. Voilà. Et le clinicien lui-même, effectivement, quand il reçoit cette information, il va se demander quel peut être le retour, en fait, qu'il va faire à partir de ce savoir qui a été communiqué par le laboratoire à la famille. Et notamment dans le domaine du diagnostic, alors là, prénatal, ce que des collègues anglais, Michael Parker et Ruth Horn, ont souligné, c'est la nécessité de se demander, dans tout ce circuit, en fait, hein, du laboratoire au patient, ce qu'est une information utile. Utile aux cliniciens et utile à la famille. Voilà, donc il faut, voilà, c'est pas évident, il faut se mettre au clair effectivement sur ce qu'est une information utile dans le cadre de la consultation clinique, d'autant qu'effectivement, en tant que clinicien, on peut être voilà, satisfait de pouvoir communiquer un nom, de mettre quelque chose hein, sur un phénomène inconnu, mais il n'y a pas nécessairement de traitement à côté. Et on n'est pas si certain que ça, comme je le disais tout à l'heure, d'apporter un savoir bienfaisant pour l'enfant et la famille. Alors, dans le cas de la pathologie de Duchenne, en fait, il y a... Alors là, je parle vraiment avec beaucoup de prudence, parce que c'est compliqué, voilà. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que depuis un certain temps, l'utilisation comme biomarqueur du taux sérique de créatine kinase, tu me coupes si je dis des grosses bêtises ou que j'ai des mauvaises formulations, France, fait débat. D'abord parce que effectivement, comme la citation, enfin le passage que j'ai indiqué ici le dit, de nombreux nouveau-nés présentent un taux élevé en CPK qui va se normaliser par la suite à environ 6 semaines. Donc si on fait le dépistage avant, hop, on a un faux positif. Et il faut éventuellement pouvoir refaire le dépistage après les 6 semaines. Ensuite, il y a une question de non-spécificité des CPK qui maintient un risque non négligeable de cas non résolus. Et puis, il ne faut pas enfin exclure des cas dont le taux CPK est normal avant les 6 semaines, puis qui se développeront après, qui augmentera, et donc pour lesquels il aurait fallu faire le dépistage après. Alors, on pense avoir résolu une partie des difficultés en ajoutant à ce dépistage le séquençage du génome. D'où effectivement la grande attente qui est formulée à l'égard de ce que la médecine génomique pourrait faire dans ce contexte. Donc le nombre de faux positifs ainsi que celui de faux négatifs est considérablement réduit et on a des résultats qui paraissent plus fiables. Néanmoins, si j'ai bien compris, l'incertitude peut perdurer ou en tout cas elle n'est pas complètement levée pour plusieurs raisons. D'une part parce que on peut identifier un variant dans le gène de la dystrophine sans certitude sur son caractère pathogène. Alors, donc, suivant les explications dont j'ai bénéficié, là, on peut quand même travailler en fonction de la nature de l'anomalie et peut-être avancer vers un résultat plus certain en pratiquant une biopsie musculaire. Autre élément d'incertitude, c'est qu'on n'arrive pas à identifier une mutation dans un gène connu. Autre élément d'incertitude, on peut se dire qu'il reste encore des gènes associés à l'augmentation de CPK. Et puis, un point de discussion sur la variabilité du caractère pathogène d'un variant en fonction du patrimoine génétique de chacun. Bon, voilà. Donc, vous voyez que du point de vue de la connaissance même, en tout cas, il y a un certain nombre de points d'interrogation, de zones un peu grises, etc., qui font que tant un chercheur qu'un clinicien peut éprouver des scrupules en termes de, oui, c'est ça, épistémologique, hein, épistémique, à divulguer la connaissance qu'il est en train d'élaborer. Alors, ce qui a retenu mon attention sur cette question de l'incertitude, c'est qu'en réalité, c'est un vieux thème des sciences sociales de la médecine et de la médecine elle-même. Et je me suis dit, c'est important de partager effectivement cet aspect-là avec vous, parce que ça peut permettre de tourner autour de l'incertitude et d'y réfléchir et peut-être de l'aborder en s'extrayant un petit peu de la situation qui est la vôtre et en considérant les choses différemment. Alors, c'est un vieux thème, en fait, qui a été élaboré par des sociologues, des anthropologues, notamment des psychologues, des médecins aussi, dès les années 50. Et pour vous résumer les choses à grand trait, là je vais très très vite, donc on peut distinguer sur la base de ces travaux, je dirais, quatre types d'incertitudes. Il y a un premier type d'incertitude qui a été qualifié de réel ou de cognitive, au sens où c'est une incertitude qui caractériserait l'état des connaissances. Voilà, donc état des connaissances incertain. Ensuite, il y a une incertitude qu'un sociologue américain, Davis, a appelé fonctionnel. Alors, il avait travaillé, lui, au début des années 60, dans un service de prise en charge de la poliomyélite. Et les observations qu'il avait faites l'avaient amené à dire qu'en réalité, l'incertitude n'était pas seulement perçue par les équipes médicales comme un défaut, un manque, une insuffisance, mais comme quelque chose qu'ils utilisaient eux-mêmes dans les échanges qu'ils avaient avec les patients et les familles, pas de manière malveillante bien sûr, hein, mais pour s'assurer que, de la coopération des patients et des familles dans le cadre de la prise en charge. En disant « oui, on ne sait pas quand est-ce qu'il va guérir, il faut bien prendre le traitement, etc. » alors qu'ils avaient voilà, une idée plus précise eux-mêmes de la chose. Donc, il a appelé ça fonctionnel au sens où elle sert à quelque chose dans la relation entre les patients et les médecins. Un troisième type d'incertitude, qui elle, a été mise en avant par un médecin, un réanimateur, qui s'appelle Nicolas Christakis, plus tardivement, vous voyez, 1999, qui est lié à l'activité pronostique. Bon, selon lui, il y aurait une sorte d'averse que les médecins détesteraient faire des pronostics. Ils prendraient ça comme une forme de prophétie autoréalisatrice. Ils auraient peur, en fait, que s'ils font un pronostic en particulier négatif, bah, ils se réalisent. Donc, ils préfèrent rester pour ne pas se tromper, pour éviter donc, cette prophétie autoréalisatrice dans une forme d'incertitude. Et puis, il y a une dernière forme d'incertitude qu'on peut mettre en avant, qui a été moins travaillée que ces trois premières formes d'incertitude. C'est ce que la sociologue Simone Bateman, en 2010, a appelé l'incertitude profane. Donc, les profanes, ce sont les patients et les familles. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'histoire de la famille, à l'histoire du patient, et à la manière dont cette histoire-là va colorer la réception des informations que les cliniciens et les chercheurs sont susceptibles de donner. Voilà, donc, vous voyez, ces quatre formes d'incertitude, elles ont un petit peu été réfléchies et il me semblait que ça pouvait être des outils intéressants à mobiliser pour réfléchir à l'incertitude à laquelle on a affaire quand on se demande s'il est vraiment bienvenu d'étendre la possibilité du dépistage aujourd'hui, à l'aide notamment des techniques de séquençage. Alors, il me semble qu'ici, on a affaire à une incertitude cognitive et réelle, en tout cas si je reviens à ce que je viens d'exposer, au sens où effectivement, les cliniciens et les chercheurs perçoivent qu'ils ne sont susceptibles de délivrer un savoir qui est pas tout à fait assuré, peut-être incomplet, inachevé, etc. Et j'ai trouvé que dans la description que Renée Fox, donc ce qui est une sociologue, avait faite du service dans lequel elle avait fait des observations à la fin des années 50, donc pour la prise en charge de maladies métaboliques, il y avait des choses très proches de ce que j'ai pu lire aujourd'hui pour le cas qui nous concerne, où elle décrit donc je vais lire la citation parce qu'elle est intéressante dans ses formulations. As clinical investigators, it was their special role to work on the periphery of what is medically known, donc à la périphérie du médicalement connu. Hein. Elle avait affaire à des médecins qui étaient aussi des chercheurs, et elle parle un peu plus loin de trailblazers. Donc c'est eux qui ont tracé la voie, quoi, qui ouvrent le chemin, des pionniers de la recherche. Et il me semble qu'on est un peu dans ce cas de figure, et on comprend de ce fait tout le questionnement qui peut être associé à une pratique de recherche ou à une pratique clinique quant à la communication d'un savoir dont on n'est pas complètement satisfait. Quoi. Voilà. Donc, sans doute qu'on a affaire effectivement à une incertitude cognitive ou réelle. Incertitudes profanes sont peut-être à documenter. Encore une fois, là, je pense que c'est un espace qu'il faut investiguer, de savoir comment les familles sont susceptibles d'appréhender l'information qui pourrait leur être délivrée dans le cadre d'un dépistage, d'un diagnostic. On commence à avoir quelques enquêtes, mais pas beaucoup, ni en termes de nombre, ni en termes qualitatifs. Et puis, on a peut-être affaire, mais je ne sais pas, quelque chose qui relèverait d'une incertitude fonctionnelle. C'est à documenter, peut-être que non, voilà. En tout cas, il y a clairement du travail à faire pour qualifier exactement de quelle incertitude ici il s'agit. Voilà, mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là. et qu'il nous faut rebondir. Et je voudrais m'acheminer vers le dernier point de ma présentation, parce que ce qui me semble aussi important de souligner, c'est que l'incertitude n'est pas un faux savoir. Elle n'est pas non plus de l'ignorance complète, parce que sans quoi elle ne serait même pas repérée comme telle. Et c'est important de faire cette distinction aujourd'hui, parce que au-delà de la prise en charge de pathologies musculaires dégénératives, en fait, on a affaire à plein de ces formes de savoir incomplet, inachevé, qui circulent socialement aujourd'hui. Et entre l'ignorance complète et le savoir constitué, il y a toute une gamme. Voilà. Mais un savoir incertain, c'est une forme de savoir, malgré tout. Voilà. Et c'est ça que je voudrais souligner ici. Peut-être mettre en avant à travers deux éléments. Alors, sans avoir vraiment nécessairement thématisé ce savoir incertain comme une forme de savoir, les études américaines que j'ai pu lire et sur lesquelles que j'ai déjà évoquées précédemment, en fait, ont en fait considéré elles que c'était pas du tout un problème, en fait, finalement. Enfin, voilà, le savoir, bon, c'était pas leur souci. Qui soit incertain, inachevé, incomplet. Et en fait, le vrai problème, c'est un problème de communication. Voilà. Mais je ne dis pas ça de manière méprisante ou comment dire, oui, alors vraiment, que ça serait quelque chose d'une appréhension superficielle de la chose. Hein, je veux... Voilà. Ils ont abordé, les études que j'ai lues, pardon, ont abordé, donc que ce soit de l'anthropologie sociale, sociologie ou psychologie, ou des études, de, oui, c'est ça, ont abordé cet enjeu de communication d'un savoir incertain comme un problème de communication. Comment bien le formuler ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait ce contexte avec double entrée pour les maladies avec prise en charge possible derrière, obligatoire avec option de sortie, et sinon... possible, légal, mais pas obligatoire. Et ce que ces études mettent en avant beaucoup, c'est l'idée qu'il s'agit, il faut présenter l'incertitude en amont du test de dépistage aux parents qui viennent en faire un. Donc, hein, il est essentiel d'aborder la possibilité de résultats incertains. Ça doit faire partie du processus de consentement. Et la discussion doit aborder en amont du dépistage lui-même tout l'éventail des réponses qui pourraient survenir à l'issue du dépistage pour savoir si les parents sont susceptibles d'appréhender tout cet éventail de possibilités. Alors, on peut toujours dire, bah oui, mais c'est un peu abstrait, avant d'avoir vraiment fait le dépistage, on ne sait pas vraiment comment les personnes vont réagir. Mais en tout cas, c'est la proposition qui est faite, c'est d'aborder en amont cette question-là de façon explicite et d'en faire un élément du consentement. Dans la même veine, il y a l'idée qu'à travers des études plus qualitatives, il conviendrait d'explorer le rapport à l'incertitude des familles, et ceci aussi en amont du test, parce qu'il peut s'avérer que certains préfèrent ne pas savoir, que certains ont un rapport de tolérance plus élevé que d'autres à l'incertitude, etc., etc. Et donc finalement, ce qui apparaît dans ces travaux, c'est que le test de dépistage qu'on peut envisager comme un petit point dans la ligne du temps et en fait enserré dans tout un processus amont et aval pour ces études. Amont, exploration du rapport à l'incertitude, travail préparatoire, processus de consentement, etc. Et aval, suivi, accompagnement, sans quoi le test de dépistage peut produire des effets catastrophiques parce qu'il a été mal anticipé dans ses effets. Voilà, donc un problème de communication. C'est une façon d'aborder les choses que je trouve intéressante, voilà, mais peut-être qui pour moi va peut-être pas au bout du questionnement. Et le bout du questionnement pour moi, enfin en tout cas au jour d'aujourd'hui, ce serait ce point, c'est que dans la mesure où le savoir incertain est quand même une forme de savoir, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette quatrième partie « Un problème pour les médecins ou un enjeu pour tous », il me semble qu'on a une décision collective à prendre sur la divulgation d'un savoir incertain. C'est-à-dire, au-delà de la question de l'extension des tests, qui peut constituer effectivement des points de crispation et d'abcès, l'enjeu fondamental pour moi, c'est est-ce que dans notre société, on est prêt à organiser, surtout avec un système de santé publique qui est le nôtre, donc c'est quelque chose de collectif, hein, et qui est avec des formes de prise en charge, est-ce qu'on est prêt à organiser et à assumer pour tous les acteurs de la situation, les chercheurs, les cliniciens, les familles, les nouveau-nés, la divulgation d'un tel savoir? Et je pense qu'il faut effectivement instruire ces questions. Qu'est-ce qu'on sait du rapport de chacun à l'incertitude? Donc là, on retrouve une question qui était posée par les études américaines, au sens d'un savoir inachevé. Pourquoi ce serait illégitime de communiquer un savoir inachevé à partir du moment où on ne peut pas faire mieux? Et est-ce que même on aurait droit ou pas à l'accès à un savoir même inachevé? Voilà. Et il me semble que si on va dans cette direction-là, de se poser ces questions-là, on peut peut-être aborder cette question de l'incertitude un peu autrement qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire comme un enjeu surtout pour les chercheurs et les cliniciens, élargir effectivement à l'ensemble des citoyens, ce d'autant que, là je n'ai cité qu'une référence, mais il y en a d'autres, on se rend compte que dans d'autres spécialités médicales, quand il y a de l'incertitude, elle n'est pas toujours gérée comme elle est gérée dans le débat que j'ai présenté ici. C'est-à-dire que parfois, elle devient même un motif de co-décision à construire entre patients et professionnels de santé. Et là, je cite une étude de quelqu'un qui s'appelle Stéphane Moreau, qui est interniste, et qui montre que dans le cas de la médecine interne, on a affaire à beaucoup de pathologies complexes, polypathologies, etc., polymorbidité. Bah, les diagnostics, c'est même la spécialité. Enfin voilà, la médecine interne se définit souvent par la complexité des diagnostics à élaborer. Eh bien, le savoir inachevé et incertain devient un motif dans les discussions pour dire bon, bah voilà, on va discuter avec le patient, on va lui présenter ce qu'on peut lui présenter et puis il va nous dire ce qu'il aimerait faire. Voilà. Et donc, on pourrait aussi aller dans cette direction. Voilà. Donc, je vais conclure en quelques mots. Bon, vous voyez. Voilà, l'orientation, en fait, effectivement, quand même, que j'ai voulu donner à ma présentation, qui est de proposer qu'on ouvre la discussion sur la légitimité de communiquer un savoir incertain et sur le fait d'instruire la question comme une question pas seulement médicale, mais aussi pleinement, à la fois, je dirais, collective et dans son fort intérieur de parents, quand les parents sont concernés par la maladie de leur nouveau-né. Ce que je voudrais souligner en conclusion, à mon sens, c'est aussi qu'il est extrêmement important, quand on a cette réflexion à mener et qui n'est pas facile, je pense qu'il y a vraiment des arguments de part et d'autre, de ne pas subir les effets d'un contexte élargi de questionnement dans lequel, en fait, cette réflexion sur l'extension du dépistage en phase asymptomatique peut très vite apparaître comme une problématique parmi d'autres, un peu noyée finalement, parce qu'aujourd'hui, on discute de l'extension du bilan préconceptionnel, on discute du DPI, on discute du diagnostic prénatal, et on discutera bientôt du passage du séquençage du génome en clinique de routine. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se dire, bon, bah voilà, de toute façon, les choses sont réglées. À partir du moment où on va faire un séquençage du génome humain pour tout le monde, voilà, on ne se posera même plus ces questions. Bah, si, il faut se les poser quand même, je pense, parce que ce n'est pas évident. Et en plus, quand on se les pose dans un domaine, par analogie, ça peut aider à réfléchir à un autre. Donc, il ne faut pas noyer la problématique et il ne faut pas, je pense, se laisser entraîner par cette dynamique sans se poser ensemble pour réfléchir. Voilà, alors, je l'ai dit, hein, je pense qu'il faut comprendre aussi et garder en ligne de mire cette question du passage en clinique de routine du séquençage du génome entier, parce que ça aura nécessairement des effets sur le questionnement relatif à l'extension du dépistage en phase asymptomatique de maladies génétiques. Dans le même ordre d'idées, il est important d'identifier le questionnement éthique spécifique. Là, ça me renvoie à cette idée de ne pas me noyer dans un questionnement général, parce que dans ce questionnement général, on voit beaucoup d'éléments associés à la question du handicap, de l'eugénisme, etc. Mais là, on a un questionnement qui est d'une autre nature, à mon avis, et que j'ai essayé donc de développer à travers mes trois points propices à l'extension, pour éviter l'errance diagnostique, favoriser une meilleure prise en charge, etc. Et puis après, donc, toutes ces questions autour de l'incertitude du savoir et de la décision à la place d'eux et pour l'enfant. Donc là, on a des questionnements éthiques qui sont spécifiques, je pense, à cette réflexion sur le dépistage. Et puis, bon, c'est un petit peu quelque chose qui me tient à cœur, mais je trouve que... il est important ici de mobiliser l'idée de solidarité. Alors, j'étais très contente de la trouver mobilisée sous une plume américaine ou anglaise, je ne sais plus, parce que moi, j'ai toujours tendance à vouloir la faire ressortir, mais je suis nécessairement un petit peu... j'ai mes œillères de philosophe française, mais je pense que c'est important de mobiliser cette idée de solidarité, à la fois pour renvoyer à l'idée que si on... va dans le sens d'une extension du dépistage, eh bien, il faut un accompagnement et un suivi amont et aval. Sans cet accompagnement et ce suivi amont et aval, je ne suis pas certaine que l'extension du dépistage vale pour elle-même. Et aussi, quand je parle d'accompagnement, c'est aussi pour que le résultat du dépistage, parce que, in fine, c'est quand même de l'enfant qui va grandir dont il est question, ne s'impose pas comme la seule histoire de vie du nouveau-né. Et ce sera mon dernier mot, parce que je pense que c'est très important, effectivement, de revenir à cette histoire de vie du nouveau-né dont on a parlé, sans que lui-même puisse dire un mot de la situation. Voilà.